Aujourd'hui, la presse va mal parce que la démocratie va mal.
Quatrième murmure.
Il nous faut réagir, réagir vite et ensemble.
L'émission qui porte la voix de la presse libre et des médias indépendants.
Moi, ça me fait respirer. En fait, la presse indépendante, elle m'ouvre des poches de respiration.
Un mardi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Libérons l'info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires.
Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles, les immanquables banalités malvenues et autres débats plus ou moins stimulants des repas de famille. Alors, si la bûche n'est pas encore sortie et que vous êtes déjà à court d'idées, voici une question que vous pouvez lancer comme ça, l'air de rien, et voir ce que ça donne. Que sait-on de la recherche scientifique et que sait-on de la science en général ? Si les médias s'emparent de la science généralement, voire quasi systématiquement par le biais de ses résultats, bien rares sont ceux qui s'intéressent réellement à l'ensemble de la démarche scientifique qui se cache derrière les résultats. Et oui, le temps de la recherche est long, celui de l'enquête aussi, mais ça tombe bien parce que la presse indépendante, justement, adore prendre le temps de fouiller en profondeur. Et en matière de science, justement, aujourd'hui on accueille un média indépendant qui nous invite, je cite, « à comprendre toute la diversité et la complexité du monde des sciences et donc de notre propre monde ». Alors, si vous voulez briller en société et lors de vos repas de famille, restez avec nous, on reçoit dans ce quatrième épisode de Quatrième Murmure le média Science Critique et son rédacteur en chef Anthony Laurent. Bonjour Anthony.
Bonjour.
On va découvrir avec toi dans cette émission ce qu'est Science Critique, sa raison d'être et l'importance de soutenir ce média. Donc on a hâte de découvrir tout ça dans cet épisode réalisé aujourd'hui par PA, qu'on ne présente plus. Salut PA.
Salut PY.
Et nous sommes aussi en studio avec toi, Sacha. Bonjour.
Salut PY.
Toi, tu reçois tout à l'heure un invité qui va nous parler de technocritique.
Et oui, je reçois le journaliste indépendant Nicolas Selnik qui va nous parler de l'enquête graphique sur laquelle il a travaillé avec Science Critique et qui sera publiée prochainement aux éditions Le Passager Clandestin.
Et oui, bienvenue et bonjour Nicolas Selnik.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Et puis bien entendu, on ne passera pas à côté de l'inévitable revue de presse des médias indépendants qui est aujourd'hui préparée par Cléo. Bonjour Cléo.
Salut.
Et enfin Luna, toi tu nous as concocté une petite chronique sur l'art des fanzines. Bonjour Luna.
Bonjour, et oui.
Alors pour en savoir plus, évidemment, restez avec nous. Vous écoutez Quatrième Murmure. Aujourd'hui, on accueille le média Science Critique et c'est bien sûr sur Radio Campus Paris.
Quatrième Murmure sur Radio Campus Paris.
Alors pour commencer, comme d'habitude, on s'échauffe un peu avec notre traditionnelle revue de presse des médias indépendants.
T'as pas lu les journaux ?
Ah, comme je suis au courant de rien, excusez-moi, mais...
Et donc toi Cléo, qu'est-ce que tu en as retenu de la presse indépendante ces dernières semaines ?
Alors plein de choses, on commence par quoi ? Le non-pluralisme chez CNews ou les librairies indées ? Non, d'abord, un petit détour par Parallèle Sud, un média indépendant réunionnais, qui résume le dernier rapport de l'UNICEF publié mercredi dernier. En cause, les enfants de Mayotte, première victime des conséquences du cyclone Chido survenu il y a un an. L'UNICEF appelle à une refonte des politiques publiques pour les enfants maorais, qui passe par l'accès à la santé et l'éducation. Je rappelle que près de 40% des établissements scolaires ont été endommagés par le cyclone. L'accès à l'eau potable et le droit au relogement gratuit pour tous et toutes, sans condition. Petit plus, les photos du reporter Olivier Sekaldi qui s'est rendu sur place.
Et à Paris, il y a une autre décision politique qui fait grincer les dents.
Oui, retour à la capitale où les espaces culturels se fragilisent. Une quarantaine de librairies indépendantes s'est vue refuser une subvention de 482 000 euros. Une décision votée par la droite lors du Conseil de Paris fin novembre. Alors décliner des aides financières aux indés alors qu'elles sont déjà menacées par l'état du marché de l'édition. Oui, c'est étonnant, on en reparlera juste après. La décision a évidemment suscité une vive polémique. Un article de Mediapart révèle que le refus concerne plus exactement une cible en particulier, Violette & Co, librairie LGBTQIA+, qui fait l'objet d'une campagne de harcèlement depuis cet été déjà. Autour de la table, est-ce que vous connaissez la raison de cet acharnement sur Violette & Co à Paris ?
Alors, pas du tout.
Si, je crois qu'il y a un rapport avec la Palestine.
Yes, un livre de coloriage sur l'histoire de la Palestine affiché en vitrine. Voilà, donc comme en témoignent plusieurs élus contactés par la rédaction Mediapart. Pire encore, mardi dernier, Mediapart révélait que Violette & Co s'était vue refuser sa candidature pour un projet visant à rendre accessibles ses locaux aux personnes à mobilité réduite. Il s'agit à nouveau de reprocher la vente du livre de coloriage palestinien. La majorité municipale a encore l'espoir de faire passer la subvention lors du prochain Conseil de Paris qui se déroule en ce moment même où nous enregistrons l'émission.
Et qu'est-ce que tu voulais nous dire sur les autres menaces qui planent sur les librairies indépendantes ?
Alors, de la course aux ventes et de la concentration des éditeurs dans de grands groupes. Oula. En studio, la répétition des mêmes livres en vitrine, est-ce que ça vous parle ? Toujours voir les mêmes livres.
Ah oui, oui, oui. Le journal d'un prisonnier.
Par exemple, ou les derniers prix Goncourt qui saturent les présentoirs ces derniers temps. Mais la bibliodiversité est-elle menacée ? Ça, c'est le sujet de l'article de la journaliste Pauline Gabinari, publié dans le journal La Brèche, numéro 13. Et ça m'a bien plu. Alors évidemment, la concentration dans le secteur de l'édition n'aide pas au mimétisme, mais l'article soulève aussi un autre mécanisme. Le nombre de publications grandit, les libraires n'ont donc pas assez de temps pour lire les nouveautés et passent commande pour des titres déjà connus ou à succès, ce qui rend les ouvrages originaux ou moins commerciaux difficilement mis en avant et limite encore plus la prise de risque de la part des libraires. Bon, ajoutons à cela un turnover rapide des stocks, un tas d'autres facteurs. Mais bon, bref, un chiffre qui m'a marqué. En 2022, les 10 000 meilleures ventes des librairies françaises représentaient à elles seules près de la moitié de leur chiffre d'affaires. Perso, je trouve ça gigantesque.
Alors la bibliodiversité, ok, et la diversité des couleurs politiques représentées à la télé, qu'est-ce que ça donne ?
Alors pour vous, j'ai regardé un mois d'émission CNews en direct et analysé le temps de parole politique jour et nuit. Non, évidemment, je tiens à ma santé mentale encore. Ça, c'est le travail entrepris par Reporters sans frontières. L'ONG, a publié une enquête sur le pluralisme de 4 chaînes d'information, entre guillemets, télé. Un travail titanesque, dont vous pouvez consulter la méthodologie sur leur site. Elle révèle que CNews, en mars 2025, diffusait des personnalités de gauche la nuit, tandis que l'extrême droite était surreprésentée aux heures de prime time. Des rattrapages nocturnes qui donnent une apparence de pluralisme, malgré un déséquilibre d'exposition au public. L'ARCOM a évidemment contesté ces résultats. Le média indépendant, Les Surligneurs, a comparé alors les conclusions des deux institutions. Résultat, les données partagées par RSF et l'ARCOM sont en réalité complémentaires et non contradictoires. C'était un article signé Nicolas Turcef. Voilà, c'était ma petite sélection des articles parus ces derniers temps. Pour cela, j'ai utilisé pour la première fois un nouveau site dont on a déjà parlé, une sorte de Google Actualité version pré-sendée, lequel ?
Le portail des médias libres ou indépendants.
C'est un petit contrôle surprise. Vous pouvez écouter la première émission dont, là où on en a parlé. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, Anthony, j'ai même vu un des derniers articles de Science Critique. Oui. Allez, je n'en dis pas plus. À la prochaine.
Merci Cléo pour cette revue de presse. Et alors justement, Science Critique, on va en parler avec toi, Anthony Laurent. Dans cet épisode de Quatrième Murmure, on te reçoit. Tu es le rédacteur en chef donc, de Science Critique, qui est un média en ligne, mais pas forcément seulement. On va y revenir. Donc, rebonjour, Anthony.
Rebonjour.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il manquait dans le paysage médiatique français pour lancer le média Science Critique ?
Très bonne question. Qu'est-ce qui manquait ? Il manquait Science Critique. Il manquait, c'est-à-dire un site d'information et de réflexion critique participative sur les sciences. Et effectivement, le postulat avant de lancer le site, il y a une dizaine ou une douzaine d'années, c'était de voir quel était le panorama, on va dire, français de l'information scientifique. Et le constat que j'ai fait à l'époque, c'était qu'il y avait quantité de magazines, de journaux, de blogs, de sites internet qui parlaient évidemment de sciences, qui est un sujet passionnant, complexe et très vaste. Mais la plupart de ces médias parlaient de façon particulière des sciences, c'est-à-dire au sens de... Enfin, ne faisaient que de la, on va dire, de la vulgarisation des sciences, c'est ce que tu as dit en introduction, c'est-à-dire que ce sont des médias qui s'appesantissent sur les seuls résultats de la recherche scientifique, celle qui est publiée dans les revues à comité de lecture, qui fait l'objet de colloques internationaux, etc. Moi, il m'a semblé que bon, cette presse a le mérite d'exister. Elle peut être très imaginative, très créative et très, très intéressante. Il n'y a pas de souci là-dessus. Science Critique s'inscrit plutôt en complément de cette presse-là. J'ai la faiblesse de penser que Science Critique reste relativement originale dans le paysage médiatique, on va dire francophone, français. au sens où on va parler des sciences, mais pas via un traitement vulgarisant les seuls résultats de la recherche, mais en parlant du contexte de production de la recherche scientifique, des savoirs scientifiques, des connaissances. Ça, c'est plutôt en amont, c'est-à-dire comment la science est-elle gouvernée, comment elle est pilotée, comment elle est financée. Et en aval, c'est de voir quels sont les effets des développements scientifiques, technoscientifiques, technologiques sur la société et sur la nature. En un mot, c'est de dire que les sciences, comme toute activité sociale et humaine, sont une activité qui est politique. Et à ce sens-là, puisque les sciences politiques, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ces développements, les développements des sciences ont des influences sur la vie des gens, la société, et jusque sur la nature et même jusque sur les corps humains. Et ben, ces développements étant politiques, il faut, par définition, un média qui puisse rendre compte de tous les enjeux soulevés par ces développements techno-scientifiques.
Et alors pour cela, pour questionner justement la fabrique de la science, Science Critique se positionne comme un métamédia. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie ?
Alors un métamédia, l'idée de base, bon ça c'était l'ambition de départ, c'est qu'effectivement on l'a présenté comme un métamédia dans notre onglet qui sommes-nous. L'idée c'était de dire aussi que dans l'infobésité, comme on dit, ou dans le fratras d'information, dans l'océan de l'information aujourd'hui, ce qui nous manquait, ce qui manquait a fortiori concernant les sciences, c'était de donner du sens à l'information. Et à notre sens, un métamédia a pour rôle et fonction non pas de courir après le scoop pour courir après le scoop, de parler et de crier avec la meute, si je peux dire ça comme ça, mais c'est de s'élever. Bon, s'élever est un peu prétentieux, mais en tout cas au moins faire un pas de côté. Et Science Critique a l'ambition, encore une fois, de pas être dans le productivisme de l'information, mais de donner du sens à toutes les informations que les gens reçoivent déjà quotidiennement. Et c'est aussi pour ça qu'on publie relativement modérément, et on publie 3 ou 4 ou 5 papiers et parmi eux quelques enquêtes, l'idée étant encore une fois avant tout de donner du sens. Et si je puis, on est dans une émission qui parle de médias, moi j'ai été biberonné au monde diplomatique, donc Science Critique entre autres influences est influencé par le mode de fonctionnement, les analyses, la démarche journalistique et intellectuelle du monde diplomatique.
Et parmi ces papiers, donc, des analyses à travers différentes rubriques, des tribunes, des dossiers, des enquêtes, et aussi des grands entretiens, des interviews fleuves. Ces trois rubriques qui s'appellent donc « Savoir, comprendre » et « Grands entretiens », ça porte bien son nom. À travers tout ça, le média invite à une prise de conscience citoyenne de la boîte noire des sciences. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de boîte noire des sciences, Anthony ?
Alors, la boîte noire des sciences, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on connaît les sciences uniquement par l'entremise des résultats. C'est-à-dire que les journaux généralistes ou les magazines spécialisés vont faire des pages sur la découverte d'une nouvelle exoplanète, la découverte d'une nouvelle cellule, que sais-je, sur ces seuls résultats. Et il me semble que la façon dont, par exemple, est menée la recherche, comment sont décidés les grands programmes de recherche scientifique, comment sont pilotés, sont financés ces gros programmes de recherche, souvent au niveau européen et aussi quelquefois au niveau national, tout ça est relativement pas su en fait du grand public. Et pour moi, ça revêt un intérêt général, un intérêt public, que de rentrer dans ce qu'on appelle effectivement la boîte noire, c'est-à-dire quelque chose qui est assez déterminant pour comprendre n'importe quel phénomène, mais les sciences en particulier. Donc une boîte noire, c'est rentrer dans la fabrique, on va dire, dans les coulisses de la science, de la recherche scientifique et des projets de R&D. Et c'est une boîte noire aussi parce qu'elle est souvent masquée, pas su, enfin pas connu. Et l'idée, c'est de rendre compte, de mettre au jour ce qui fait que, par exemple, on attribue plusieurs milliards d'euros pour la recherche sur l'électronucléaire, par exemple, et quelques millions ou centaines de millions sur la recherche agroécologique. En fait, c'est ces questions-là, à titre d'exemple, qu'on soulève à Sciences Critiques, qui sont encore une fois des questions éminemment politiques. Et encore une fois, le financement, la gouvernance de la recherche et ses effets sur la nature et la société, ce sont des informations pour nous premières, pour bien comprendre ce qu'est le monde des sciences et sa complexité.
Oui, tu l'as dit, tu l'évoques, l'idée c'est de questionner la science comme étant un objet politique.
Oui, exactement. La science telle qu'elle se fait en 2026, telle qu'elle se fait au début du 21e siècle, il faut bien le comprendre, c'est un peu effectivement une analyse dite constructiviste, c'est-à-dire que la science est le fruit de plusieurs décisions qui ont été prises ces dernières décennies, voire ces derniers siècles. La recherche scientifique a une orientation particulière au jour d'aujourd'hui. Elle peut être différente. À titre d'exemple, par exemple, en ce moment, au niveau européen, l'Europe est en train de décider d'un nouveau programme de financement de la recherche à hauteur de dizaines de milliards. Et quand on regarde un peu les programmes qui sont un peu pressentis pour être financés par l'Europe, c'est la robotique, l'intelligence artificielle, l'agriculture connectée. Donc c'est une façon d'orienter la recherche. Si un jour on décide de demander l'avis des citoyennes et des citoyens sur la recherche scientifique, dont ils subissent, on va dire, les effets pour le meilleur et pour le pire, si on demande aux citoyens, citoyennes de choisir quel type de programme ou de projet de recherche ils voudraient soutenir, il est fort à parier qu'on n'aurait pas forcément de la robotique, de l'IA ou de l'agriculture connectée, mais on aurait, il y a des études sur le sujet, mais que je n'ai pas là en tête, mais justement, des sujets sur l'agroécologie, sur les impacts sur la société, enfin, c'est tout autre. C'est tout ça pour dire que, en trois mots, hein, en fait, la recherche est pilotée par certains types d'intérêts, qui sont des intérêts souvent qui sont en phase, qui sont alignés avec les intérêts industriels et qui ne sont pas forcément alignés avec les intérêts citoyens.
Et alors, plutôt que de soutenir la robotique, l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut soutenir, au contraire, Sciences Critiques? Quel est le modèle économique de Sciences Critiques?
Alors, le modèle économique de Sciences Critiques est assez déséquilibré, est assez bancal. Notre modèle... outre le monde diplo, c'est Mediapart. En fait, on a la prétention, et en fait, on voudrait être un peu le Mediapart des sciences. C'est-à-dire que ce qu'on fait depuis un an ou deux, et d'ailleurs Nicolas Selnick l'illustre aussi, c'est qu'on a multiplié les enquêtes. Parce qu'effectivement, jusqu'à récemment, on existe depuis 10 ans, mais jusqu'à récemment, on publiait beaucoup des analyses de la rédaction, on est des tribunes libres d'invités extérieurs, mais on faisait très peu d'enquêtes. Et du coup, notre idée, c'est de multiplier ces enquêtes, ce qu'on a déjà fait là depuis un an ou deux. Et pour mener ces enquêtes, ben, ça suppose du travail journalistique, de l'énergie, du temps, etc. Et donc, effectivement, comme tous les médias indépendants qui essayons de survivre, on a besoin de financement. Alors, je disais que le modèle économique est déséquilibré parce qu'on est archi-dépendant d'une fondation, qui est la fondation Charles-Léopold Meyer, pour le progrès de l'homme, qui nous donne plusieurs milliers d'euros. Et on a nos lectrices et nos lecteurs, quand même, qui nous donnent quelques dons à hauteur, on va dire, de 1500, 2000 euros, ce qui est quand même très peu. Donc, le modèle économique est relativement déséquilibré. On est archi-dépendant d'une source de financement qui nous laisse les coudées franches. C'est très bien. Et on travaille très, 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 très librement. Mais comme tous les médias indépendants, on veut aussi que nos lecteurs et nos lectrices puissent nous soutenir et puissent soutenir ce travail donc des journalistes de la rédaction. Et parce qu'on a besoin d'enquêtes sur ce sujet scientifique qui est, comme je le disais tout à l'heure, un peu délaissé par les médias dominants et même les médias alternatifs. Ils s'emparent des sujets scientifiques quand même que très marginalement. Donc merci d'ailleurs de l'invitation aujourd'hui parce que effectivement on aurait besoin d'être davantage soutenu par les lectrices et lecteurs, mais également toutes les passionnées et tous les passionnés des sciences.
Eh bien, le rendez-vous est pris sur science-critique.fr. Tout de suite, allez, on fait une première petite pause musicale avec le son Technoflic de Poésie Zéro. Donc, bougez pas, on se retrouve juste après.
Ça fait que t'as bouffé, t'as vidé ton historique, mais ça sert à rien. Car la technologie...
Vous êtes sur Radio Campus Paris, on vient d'écouter Technoflic de Poésie Zéro et c'est le quatrième épisode de Quatrième Murmure.
Quatrième Murmure sur Radio Campus Paris.
Et donc après ce doux morceau de punk Technoflic, Sacha, tu reçois Nicolas Selnick pour nous parler technocritique.
Et oui, rebonjour Nicolas Selnick, merci d'être avec nous à Quatrième Murmure. Tu es donc journaliste indépendant et collaborateur régulier du journal Libération, du média en ligne Reporter ou encore du magazine Social Terre. En 2022, tu as coécrit avec le journaliste Fabien Benoît Technolutte, enquête sur ceux qui résistent à la technologie dans la collection de Reporter édition du Seuil. Un livre qui n'est pas sans rapport avec ce dont on va parler ensuite. Et donc justement, aujourd'hui on est là pour parler d'une bande dessinée enquête apparaître en avril 2026, si j'ai bien lu, qui a pour titre « Un grain de sable dans la machine ». Cette BD fera partie d'une nouvelle collection lancée aux éditions Le Passager Clandestin en collaboration avec le média Science Critique. Alors pour commencer, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette BD enquête et pourquoi avoir choisi ce titre-là, Un grain de sable dans la machine ?
C'est une BD qui porte donc sur des sujets dont on vient de parler avec Anthony Laurent, qui concernent tout ce qui touche de près ou de loin à la technologie, à la numérisation du monde. Et qu'on réalise donc avec Juliette Brigand, qui a coécrit le scénario avec moi et qui fait des illustrations absolument magnifiques que je vous invite à aller découvrir du coup quand la BD sera disponible en avril. Un grain de sable dans la machine, parce que c'est vraiment l'idée qui nous est apparue de qu'est-ce qui se passe en fait quand quelque chose commence à ne pas fonctionner comme il devrait et que toute cette espèce de mécanique se grippe. Parce que globalement, on est habitué à utiliser toutes ces technologies dont on va parler par la suite. Et parfois, le simple fait d'avoir, en l'occurrence dans la BD, le téléphone qui ne fonctionne plus pendant quelques jours parce qu'on a renversé du café dessus, nous amène à nous poser des questions qu'on ne se poserait pas d'habitude et à commencer à questionner nos usages de la technologie, du numérique, etc. Et en fait, ce qu'on a pu observer précédemment pendant nos enquêtes sur ces mouvements de contestation des technologies, c'est qu'ils partent très souvent d'un objet du quotidien qui s'introduit et qui perturbe un peu la routine. Et ce petit grain de sable dans la machine, en fait, amène après à des questionnements hyper politiques, hyper généraux, beaucoup plus vastes.
Ouais, donc il y a le déploiement manifeste de la 5G, les technologies de surveillance, la numérisation du monde du travail ou plus récemment l'envahissement de l'IA générative. Pourquoi avoir choisi de t'intéresser à ces sujets-là et qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, en fait ?
Je pense que c'est les sujets qui nous semblent les plus transformateurs d'un point de vue social et anthropologique d'un côté. Social dans le sens où ils viennent cristalliser des rapports de force économiques et politiques. Pour reprendre ce que disait Anthony, je suis du parti de dire que la technologie, c'est pas quelque chose de neutre et dont on ferait un bon ou un mauvais usage, mais que ce sont des dispositifs qui modifient notre rapport au monde, notre manière de faire société. Et donc, quand cela, la technologie, c'est extrêmement politique. Et pourquoi la 5G, la surveillance, l'IA générative, on parle aussi de tout ce qui est le machinisme agricole, qui est un pan dont on parle en général assez peu, mais qui me semble essentiel quand on s'intéresse un petit peu à la technologie de manière profonde. On les a retenus parce que c'est ceux qui émergent comme des champs de conflictualité politique les plus forts. En tout cas, c'est ceux qui, depuis 2020 à peu près, quand on a commencé ces enquêtes et depuis que je bosse sur ces sujets-là, créer le plus de débats nécessite le plus d'attention parce que derrière l'introduction de la 5G, ça va être un collectif d'habitants qui se dit mais pourquoi est-ce qu'on m'installe ça chez moi, à quoi ça sert, mais moi je suis très bien avec la 3G, la 4G, la 2G pour ceux qui veulent pas de smartphone. Et en fait ils se heurtent à toute une machinerie dont ils comprennent pas forcément les tenants et aboutissants. Ils commencent à poser des questions, à se dire mais en fait la 5G ça va servir des intérêts économiques, l'industrie, les objets connectés, le frigo qui vous disent que vous pouvez cuisiner à partir de ça, est-ce que moi j'en ai vraiment besoin. Et en fait c'est vraiment ces questionnements qui nous semblent intéressants parce que c'est des questionnements hyper personnels. En général quand on parle de technologie, on peut avoir l'impression qu'on va parler d'ordinateur quantique, de trucs hyper obscurs, et non, en fait ce qu'on voulait montrer c'est que c'est tout un chacun qui, dans son quotidien, est impacté par l'arrivée de ces dispositifs. Mmh.
Donc, comme on l'a dit, le format, c'est une bande dessinée qui raconte à travers le personnage de Marie un parcours d'initiation à la technologie et surtout à sa critique. Les dessins, tu l'as dit, ils ont été réalisés par Juliette Brigand. Je crois que c'est sa première bande dessinée.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé, votre collaboration? Et pourquoi avoir choisi le format de la bande dessinée pour raconter cette enquête technocritique?
Alors, la collaboration, c'était hyper intéressant pour moi qui n'avais jamais fait d'album de bande dessinée. J'avais déjà fait des tout petits strips de 10 cases avec d'autres dessinateurs, dessinatrices. Là, en fait, en album, ce qui est passionnant, c'est que ce qu'on te demande, c'est de raconter une histoire. Nous, ce qu'on n'a pas voulu faire, c'était une BD documentaire qui, en fait, reprend une enquête journalistique, on fait une sorte de PowerPoint, on met des dessins dessus et voilà. On voulait que ce soit une BD où tu tournes les pages parce qu'en fait t'as envie de savoir ce qui arrive au personnage principal et tu vis l'aventure avec lui. Et je pense que on entendait tout à l'heure la voix d'Alain Damasio là en lancement. En fait, ce que Damasio dit très bien, c'est que la fiction permet de créer des affects très forts. Et on est sur des sujets qui sont à la fois très technique, mais aussi très passionnel assez souvent. Et par la BD, je pense qu'on peut toucher des affects assez profonds. Même moi, je me suis très fort attaché à cette Marie, à ce personnage principal. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'elle est dans ces états de pas comprendre, parfois d'être frustrée, parfois de se sentir dépassée? Et un autre atout de la BD, et ça c'est Juliette Brigand qui a pas seulement fait les dessins, elle a aussi beaucoup participé au scénario, on a beaucoup retravaillé ensemble le scénario ensemble. Ce qu'elle arrive à faire avec la puissance, je pense, de la BD, c'est en fait, pour reprendre un vieil adage, un dessin vaut mieux que 1000 mots parfois. Moi, je peux vous expliquer pendant des heures pourquoi le numérique c'est extrêmement matériel. Je peux vous parler des terres qu'on artificialise pour faire des data centers, des caps sous-marins, etc. C'est important, mais c'est très théorique. Elle a trouvé par le dessin des manières de montrer, en fait, avec l'irruption d'artefacts bleus dans la BD, l'existence matérielle de tous ces réseaux. Et en fait, d'un coup, d'un dessin sur une seule planche, en un coup d'œil, on comprend que le numérique, c'est pas simplement le cloud et quelque chose d'éthéré, mais c'est une présence qui, en fait, est déjà là dans nos vies.
Oui, il y a quelque chose de très matériel, en fait. Et alors, du coup, en pratique, comment ça se déroule une enquête comme celle-ci? Combien de temps ça t'a pris? Est-ce que tu t'es rendu sur le terrain pour rencontrer les acteurs et actrices de la technologie, mais aussi les gens qui luttent contre? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières?
Alors, pour Technolutte, on y avait passé, qu'on a coécrit avec Fabien Benoît, qui est aussi journaliste indépendant. On y avait passé 2 ans et demi, 3 ans, je pense, beaucoup sur le terrain, etc. La méthodologie était à peu près la même pour Un grain de sable dans la machine, où on a refait quelques petites enquêtes. Avec Juliette, on est retourné voir certains moments, notamment pour tout ce qui concerne l'atelier paysan, qui est un collectif qui favorise les low-tech, donc pour montrer qu'il y avait aussi du positif. Et là, on avait besoin de voir les gestes, le faire, en fait, très concrètement. Et là, c'est les nécessités du dessin, quoi, mais de voir à quoi ressemble un corps en train de travailler, etc. Pour enquêter sur tous ces collectifs-là, il y en a beaucoup qui sont comme des collectifs d'opposition à divers projets environnementaux, c'est-à-dire qui se sont constitués, qui communiquent et qu'on peut repérer de cette manière. Il y en a d'autres personnes qui sont beaucoup plus compliquées à joindre, qui vont être celles et ceux qui se placent plutôt en marge, qui sont pas forcément dans une opposition frontale, mais qui ont choisi plutôt des logiques d'évitement, de désertion. Et donc là, c'est plutôt par réseau. Enfin, bon, en 3 ans, on a le temps de se faire un réseau et de rencontrer les personnes qui vivent sans internet, sans téléphone, etc. Les difficultés, je pense qu'elles sont multiples. Et la première rejoint pas mal ce que disait Anthony, c'est qu'on fait face à un rouleau compresseur, dans le sens où les moyens de communication, le fond de culture général est beaucoup plus orienté vers la technophilie que vers la technocritique. Et on a souvent l'impression un peu de batailler contre des moulins à vent. Et donc, il y a toujours une sorte de remise en question personnelle aussi de mais est-ce que c'est effectivement vrai que on nous dit toujours que la transition numérique ça va faire avancer la transition écologique, et moi mes enquêtes me montrent l'inverse. Est-ce que c'est pertinent de penser ça? Donc il y a cette nécessité de survérifier tous les discours qu'on entend, toutes les sources qu'on utilise, qui a aussi un autre corollaire que souvent les technocritiques ont tendance à être assez défaitistes.
Ok. Donc, pour tous les gens qui ne connaissent pas la technocritique, du coup, c'est une bonne porte d'entrée dans cette quête initiatique. Pour terminer cet entretien, peut-être une courte question. Est-ce qu'il va y avoir d'autres BD consacrées à la technocritique ou d'autres formats, peut-être?
Alors, Anthony Laurent saura beaucoup mieux parler de ça que moi, mais dans la collection lancée aux passagers clandestins en partenariat avec Sens Critique, il y a pour l'instant 4 BD qui sont prévues. Je vais pas m'avancer à dire qui fait quoi, mais il y a d'autres sujets qui seront liés à des enquêtes sur les sciences et qui vont être tout aussi passionnants.
Ok, et ben merci beaucoup Nicolas Selnick d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle à nos auditeurices le titre de ta BD, Un grain de sable dans la machine, co-écrit du coup avec Juliette Brigand, apparaître le 3 avril 2026 aux éditions Le Passager Clandestin en collaboration avec le média Science Critique.
Eh bien, merci Sacha, merci Nicolas pour cette belle présentation. C'est vrai qu'on a hâte de le lire. Rendez-vous, alors le 3 ou le 4 avril ?
Le 3.
Le 6 avril. Le 6 avril, voilà, bon.
Début avril. Voilà. Début avril.
Mais soyez prêts dès le 3, ouais, ça c'est clair.
En attendant donc le mois d'avril, on est toujours avec Anthony Laurent, rédacteur en chef du média Science Critique, média qui offre d'ailleurs une place particulière à l'investigation. Alors profitons-en, c'est le moment de parler enquête.
Je mène en douce ma petite enquête.
Bon, d'autres indices ?
Tu as un scoop ?
Il faut venir et puis faire votre métier, vous faites une petite enquête.
C'est du journalisme total.
Alors Anthony, ça fait 2 ans maintenant que tu travailles sur une enquête qui va être publiée dans quelques mois aux éditions du Bord de l'eau. Il s'agit d'une enquête sur les effets sanitaires des écrans sur les jeunes. Est-ce que tu peux nous présenter cette enquête en 2 mots et nous dire pourquoi tu t'es lancé sur le sujet ?
Oui. En tant que journaliste scientifique, comme j'ai essayé de le dire dans la première partie d'émission, ce qui m'intéresse, ce sont les enjeux politiques et sociaux de la science, de la recherche et de l'expertise scientifique. Et c'est vrai que dans mes études de journalisme scientifique, j'ai été beaucoup, on va dire, introduit, initié à ce qu'on appelle des controverses. Les sociologues des sciences appellent ça des controverses socio-techniques. C'est-à-dire que il y a des objets technologiques ou des recherches scientifiques qui peuvent déborder les murs des laboratoires, comme on dit, et poser problème, créer des polémiques, des scandales, mais plus, on va dire, plus raisonnablement, des controverses légitimes. C'est ce que vient de dire Nicolas Selnick, par exemple, les téléphones portables, la 5G, tout ça, c'est le fruit de développement de R&D et le fruit de développement de la recherche scientifique. Et à un moment, ça concerne des agriculteurs, des travailleurs, ça pose un problème dans la société, ce qu'on appelle les controverses socio-techniques. Et moi, j'ai voulu suivre une controverse qui m'a l'air extrêmement épineuse, virulente même dans les échanges publics et médiatiques, au sujet des effets sanitaires des écrans chez les enfants et les adolescents. Alors moi, ce que je n'ai pas fait, c'est de faire une revue de la littérature scientifique sur le sujet qui a déjà été bien fait par quelques auteurs et autrices avant, comme Michel Desmurger, Annelise Ducanda, Sabine Duflo, et j'en oublie. Moi, c'est plutôt, justement, en qualité, on va dire, de journaliste scientifique, c'est de faire une enquête, on va dire, politique sur cette controverse socio-technique, sur les effets sanitaires des écrans. Puis, plus concrètement, je m'inscris dans la filiation, on va dire, des historiens des sciences, Oreskes et Conway, et Proctor avant, se sont intéressés à ce qu'ils ont appelé les marchands de doute de plusieurs controverses historiques passées, notamment le tabac, mais aussi l'amiante, les pesticides plus récemment, les néonicotinoïdes, etc. C'est-à-dire, en gros, il y a une controverse, on en parle beaucoup dans les médias, dans le plus grand public, etc. Et en réalité, ces controverses, elles peuvent se résumer de la façon suivante. La littérature scientifique est abondante et elle converge pour dire qu'il y a un problème. L'amiante crée des problèmes de santé, le tabagisme passif crée des problèmes de santé. Et donc j'ai calqué cette analyse-là à une controverse donc très très d'actualité qui est les effets sanitaires des écrans. Et donc ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait différents camps. Schématiquement, il y en a deux. Il y a des gens qui alertent, notamment des médecins, des gens qui font des analyses cliniques des enfants, qui alertent sur les effets néfastes des écrans, sur le sommeil, enfin c'est assez somatique, et même sur les aspects psychologiques des enfants. Et en face, on a des experts très médiatisés, invités aussi par les commissions d'enquête parlementaires, même par assiégés dans les commissions écrans comme il y a eu en début 2024 à l'invitation d'Emmanuel Macron. Et on a une vraie controverse très forte entre ces deux camps. Et l'idée pour moi, c'est en fait, j'emprunte aussi ce terme à la sociologie des sciences, c'est de cartographier la controverse, c'est-à-dire voir qui sont les gens qui font le plus de bruit ou qui prennent le plus la parole dans les médias, et pouvoir, en fait, d'où il parle, comme on disait en mai 68, et pourquoi tel expert adopte telle position. Et je crains, d'une certaine façon, en tout cas c'est le résultat de mon enquête, qu'on retrouve à peu près des marchands de doutes, comme on en a vu sur des dossiers passés, on en retrouve aussi aujourd'hui sur les effets des sanitaires des écrans. C'est-à-dire on a des experts, ou des gens présentés comme tels, ou pour certains même, j'ose le dire, des pseudo-experts, qui relativisent les effets délétères des écrans, alors que et les médecins d'une part et la littérature scientifique d'autre part ont tendance de plus en plus, parce que le sujet est quand même neuf, mais ont quand même tendance de plus en plus à converger pour dire que les écrans ont des effets plus problématiques que bénéfiques pour les enfants.
Alors en l'occurrence, ces effets plus problématiques, est-ce que tu peux en citer quelques-uns ?
En fait, ceux qui font... Alors, je peux renvoyer les auditeurs et les auditrices sur le rapport de la commission Macron qui a été rendu public en avril 2024 suite à la commission des experts, où là, il y a un vrai consensus scientifique qui a été établi sur les effets sanitaires des écrans. Il y a un avis qui est relativement... Il y a un consensus, pour le coup, scientifique sur les effets, on va dire, somatiques, c'est-à-dire sur le corps des écrans, c'est-à-dire le sommeil. Il est évident que c'est un des effets très néfastes. Alors, on pourrait dire c'est que le sommeil, etc. Mais en réalité, déjà, ce seul problème de santé-là est un vrai problème épineux, parce que quand on dort, eh ben, notre cerveau se repose, évidemment, se répare, se régénère. Donc même ce seul problème de santé est déjà en soi un grave problème de santé publique, on peut dire ça comme ça. Mais aussi, je peux citer la myopie, je peux citer, d'un point de vue cette fois un peu plus psychologique, ce qui fait aussi relativement consensus, même si c'est sur ces aspects psychologiques et psychiques où les divergences sont les plus fortes et les plus bruyantes, c'est la concentration, les capacités de mémorisation. Quand on parle des jeux vidéo, par exemple, c'est aussi des comportements violents. C'est là où il y a le plus de discussions, on va dire. Sur ces effets dits psychologiques qui sont plus difficilement mesurables, les écrans ont quand même majoritairement, encore une fois, plus d'effets néfastes que d'effets bénéfiques. Les écrans ont des effets bénéfiques qui se comptent à la rigueur sur les doigts d'une main et sur des cas extrêmement précis. Et d'ailleurs, ces cas précis observés en laboratoire, on va dire, ne sont pas forcément transposables d'ailleurs dans la vie réelle des enfants.
Oui, et alors on parle d'enquête, de journalisme d'investigation. Est-ce que, on le sait, les journalistes qui travaillent sur ces sujets-là peuvent recevoir des coups de pression des personnes liées au rapport de force ? Est-ce que c'est ton cas ? Est-ce que Science Critique a été menacée d'une façon ou d'une autre par les marchands de doute ?
Je peux dire globalement oui, même si on reste un média, faut bien en convenir, un média qui reste alternatif ou confidentiel, même si évidemment on est suivi par près de 4000 personnes quand même, et parmi eux des journalistes qui peuvent nous relayer. Globalement, la critique des sciences est plutôt, alors c'est diversement apprécié, mais effectivement on a eu, au-delà de l'enquête sur les écrans, on a eu quelques insultes, quelques moqueries, parce que dès qu'on parle de la science, en fait, il y a une forme de réflexe, je sais pas qu'on peut appeler archaïque. C'est-à-dire que ça montre bien que critiquer la science, ça, pour moi, ça fait partie même de la démarche même de la science. C'est-à-dire d'avoir un point de vue critique, de remettre en cause les évidences des choses. Et il semble que pour un certain nombre de personnes, critiquer un tabou correspond à critiquer la science, justement, correspond à briser un tabou. Ça, à mon sens, ça illustre le fait que la science, pour certains, est sacralisée. Et dans notre société moderne occidentale, la science est sacralisée et portée ne serait-ce qu'un jugement critique, qui peut être, et souvent, la plupart du temps, rationnel en plus, parce qu'on peut critiquer la science pour différentes raisons et suivant différentes valeurs. À science critique, on reste, on va dire, dans un cadre raisonnable, raisonné, rationnel de la discussion de la science. Je disais tout à l'heure, on emprunte beaucoup la critique. Enfin, pour critiquer la science, on emprunte beaucoup les connaissances liées à l'épistémologie, à la sociologie des sciences, l'histoire des sciences, la philosophie des sciences et l'anthropologie des sciences. Et donc, forcément, ça, des gens qui considèrent la science comme sacrée, intouchable, parce que c'est le synonyme de, on va dire, du progrès social et humain, chez eux, ça pose problème. Après, il y a des cas très spécifiques. Par exemple, on vient de sortir une enquête sur la biodynamie. La biodynamie est un sujet très controversé. Ce qui est heureux pour l'instant, c'est que dans les parties commentaires de l'article, on a affaire à des échanges entre le journaliste et certains lecteurs et lectrices qui sont des échanges courtois, mais donc ça permet d'éclairer et de poursuivre l'enquête. C'est ça qui est génial. Après, sur mon cas, sur les écrans, pour l'instant, ça reste simplement des échanges, des interviews qui tournent pas très, qui sont pas très agréables à mener parce que les gens se sentent bien mis en cause. Voilà, mais sur l'enquête en tant que telle, pour l'instant, pas de pression, pas de menace, ne serait-ce que des gens qui sont dans une position assez désagréable puisqu'ils se sentent jugés, évidemment.
Eh bien, merci Anthony. On va découvrir donc cette enquête dans quelques mois aux éditions du Bord de l'eau. En attendant, il y a déjà plusieurs articles sur le sujet qui sont parus que tu as écrit. Avant de faire une deuxième pause musicale, Luna, toi, tu t'es penchée sur un modèle un petit peu particulier de la presse indépendante, voire très indépendante, les fanzines. Fanzines ou fanzines, d'ailleurs ?
Bah, pour ma chronique, j'ai effectivement voulu parler d'un média indépendant dont on parle peu, mais qui est pourtant une petite pépite de la culture alternative, geek, queer et punk. Je parle donc du... Moi, je dis fanzine. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent fanzine pour fanatique magazine, qu'on pourrait aussi traduire par magazine de fans, et qu'on peut aussi appeler par son petit nom le zine. Il est aussi bien connu des passionnés de science-fiction auxquels on attribue souvent les débuts dans les années 30 aux États-Unis, que revendiqué par les punks et militants en teux de gauche radicale alternative et souvent queer, qui l'ont repris dans les années 70-80.
Mais alors, qu'est-ce que c'est un zine ?
Eh ben, j'aurais envie de dire que le zine, c'est un peu Internet avant Internet. C'est des idées, des dessins, des poèmes, des textes politiques, des montages photos, des tutos, des BD. Tout ça à la fois, et bien plus encore, auto-imprimés, peintes, brodées sur quelques pages, en petit format. Des trucs qu'aucun éditeur sérieux ne voudrait imprimer, mais qu'on veut partager et qui nous font résonner avec les autres. On se les échange, on les distribue dans la rue, en manif ou ailleurs, gratuitement ou contre de quoi rembourser l'impression. Tout le monde peut en faire, il suffit d'une feuille et d'un crayon, quelques mots, quelques magazines découpés et collés suffisent pour créer un fanzine à soi. Je recommande à tous d'un jour s'asseoir avec une feuille de papier et simplement poser ce qu'on a envie, de notre liste de musique préférée à un plaidoyer politique, en passant par un tuto comment changer un pneu de voiture ou comment s'injecter de la thé, un poème ou une suite de dessins, son univers préféré.
Alors ça paraît très large tout ça, mais Luna, est-ce que c'est bien sérieux tout ça ?
Si la création de fanzine est accessible à chacune, chacun, on peut se dire qu'il faut s'en méfier un peu comme de ce qui est écrit sur un blog ou sur un compte Instagram. Mais pas besoin d'être un format accessible à tous pour donner des informations douteuses. Hein. Des médias comme Frontières ou CNews en sont un bon exemple finalement. Et je ne pense pas avoir à convaincre grand monde ici qu'en général, il faut vérifier l'information pour s'en faire une idée claire. Si le fanzine en France ne fait pas très sérieux de par son format et de son accessibilité à chacune chacun, certains fanzines ont été adoubés par la sacro-sainte édition. C'est le cas par exemple d'un titre que les féministes connaissent bien, Scum Manifesto de Valérie Solana, un manifeste de quelques dizaines de pages sur l'éradication du sexe masculin, écrit en 1966, et qui a même fini par être édité par Fayard en 2005, puis en 2021. Vous connaissez peut-être ce petit livre, mais saviez-vous qu'avant son impression industrielle, le Scum Manifesto avait été imprimé et agrafé manuellement par Solana environ 2000 fois, et qu'elle le distribuait elle-même dans la rue pour 1 dollar aux femmes et 2 aux hommes. Aujourd'hui, on trouve des fanzines dans différentes bibliothèques et librairies comme le Fanzinarium ou le Montanlère, qui sont deux lieux du 20e arrondissement de Paris. Des amateurs de fanzines organisent aussi des festivals comme le Salon de la Micro-édition qui a aussi lieu dans le 20e arrondissement, à la bibliothèque Marguerite Duras. Décidément, c'est vraiment un bel arrondissement. Un événement où vous pourrez rencontrer des enfants qui vous présenteront leurs zines sur leur collection de doudous ou des militantes qui ont rassemblé des conseils de choses à faire quand on est témoin d'une agression raciste. Enfin, n'hésitez pas à aller consulter le site Fanzinarium où vous trouverez un immense catalogue de fanzines ainsi qu'une page sur l'histoire de cette contre-culture.
Eh bien, merci Luna, effectivement, rendez-vous sur Fanzinarium, et ça donne envie aussi de se lancer dans l'artisanat et de faire notre propre fanzine ou fanzine, voilà, comme vous préférez. Allez, on se fait une dernière pause musicale, tout en douceur, avec Lily, et le titre « Viens, on part ».
Tout repenser, viens on part, je veux pas. ça m'a fait tout drôle, ça m'a touché là. Ah, ça m'a touché là. C'est nouveau, c'est bizarre, mais ça fait du bien. J'ai eu la tête qui tourne quand t'as pris ma main. Ah, quand t'as pris ma main. Ça y est, je suis enfin libre, je peux enfin être moi. J'ai plus peur de m'ouvrir, plus peur des au revoir. Je me sens si légère quand je suis avec toi. Ah, quand je suis avec toi, viens pas. Pourquoi rester? J'en ai marre. Je veux voir ta peau en soir d'été. Il est trop tard pour tout repenser. Viens pas, je veux pas rester. Viens pas, pourquoi rester? J'en ai marre, je veux voir ta peau en soir d'été.
On vient d'écouter Viens on part de Lily sur Radio Campus Paris.
Quatrième murmure sur Radio Campus Paris.
Et alors justement, en fin d'émission, vous le savez, on part en région à la découverte des médias indépendants régionaux. Et aujourd'hui, on fait une escale dans les Pays de la Loire.
Je me casse de Paris.
Je vais voyager.
Je fais le tour de France.
Il y aura toute la presse locale.
Vous avez peut-être tout simplement envie de voir du pays.
Et nous voilà donc dans les Pays de la Loire. Et pour nous accueillir aujourd'hui, on reçoit au téléphone Marie Bertin, cofondatrice du média indépendant Les Autres Possibles. Bonjour Marie.
Bonjour, bonjour à tous.
Et pour commencer Marie, donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Les Autres Possibles et depuis quand ça existe ?
Bien sûr, donc le magazine Les Autres Possibles existe depuis 2016, donc bientôt 10 ans. Il paraît sur la région nantaise dans un premier temps et aujourd'hui dans tous les pays de la Loire pour parler des interactions entre les enjeux écologiques et sociaux. Donc en fait, on raconte des histoires qui sont à la croisement entre ces enjeux, voilà, et sur le territoire Pays de la Loire. Alors après, on fait des récits, donc des récits d'histoires particulières, et ensuite on a un décryptage qui vient un petit peu prendre du recul et poser des questions, comme par exemple pour le dernier numéro, faut-il donner plus de droits aux animaux qu'ils n'en ont actuellement dans la loi ? Et pour ça, on s'est intéressé à l'histoire du cochon d'élevage en partant d'un refuge spécialisé qui se trouve en Sarthe, donc voilà, en Pays de la Loire.
Voilà, donc des longs récits avec une grande place pour le témoignage aussi. Là, pour ce numéro, on part à la rencontre justement de la fondatrice du refuge, aussi d'un cofondateur de l'association L214, je crois. Est-ce qu'il y a justement, il y avait un message à faire passer derrière ce choix de sujet ?
Alors oui, on part à la rencontre de la fondatrice du refuge Groingroin, donc le seul en France spécialisé dans le sauvetage du cochon, de cette espèce en particulier. Et puis ensuite, on chemine pour raconter l'histoire du cochon d'élevage, qu'on élève depuis la nuit des temps, en fait, voilà, nous humains. On chemine à la rencontre d'autres personnes qui s'attachent à cette histoire, qui s'y sont intéressées, et aussi pour défendre les droits des animaux de diverses manières, en faisant des choix différents aussi dans leur manière de mener ce combat-là. Donc on a un cofondateur d'L214, on a aussi des avocates spécialisées hein, qui mènent la plupart de leurs plaidoiries autour de dossiers de protection animalière, et aussi des chercheurs, chercheuses qui sont spécialisés dans l'histoire du cochon d'élevage, ça existe, oui, et qui aussi, pour l'INRA par exemple, réfléchissent à cette question des droits des animaux qui en fait est assez présente dans les réflexions des institutions agricoles et pas seulement du côté des associations militantes, en fait.
Oui. Et alors, toutes ces personnes, on les retrouve dans un format qui a la forme d'un petit cahier de plusieurs pages. Ça, c'est une nouvelle formule que vous proposez depuis quelques mois, peut-être bientôt un an, c'est ça ?
C'est ça, oui. Ça fait 4 numéros qui sortent sous ce format. Avant, on était une carte. On était un magazine cartographique dépliant où on réalisait une carte de notre territoire d'un côté, on faisait un dossier d'article de l'autre. On a changé parce qu'on avait envie de laisser plus de place à l'écriture, au récit, donc. Et on a décidé de sortir un format livret assez classique, plus classique, d'une trentaine de pages, mais où on a vraiment la place de raconter et où on se concentre vraiment sur une histoire à chaque fois. Ouais.
Ouais. Ça, c'était une formule, un créneau qui était libre dans la région des Pays de la Loire ?
Oui, alors on n'est pas le seul magazine sur ce territoire, et qui est d'ailleurs un territoire assez dynamique en termes de presse indépendante. Il y a la Topette à Angers, il y a la Lettre à Lulu à Nantes, il y a la revue 303 aussi, peut-être, on peut citer, mais j'en oublie, il y en a pas mal d'autres. Et donc, voilà, mais par contre, c'est vrai que sur... on est toujours, de toute façon, quand on a un projet original, on est toujours un peu unique, mais sur le créneau du récit à la croisée de ces enjeux sociaux et écolos, bon, effectivement, on n'est pas si nombreux, même si on n'est pas les seuls à parler de ça, bien sûr.
Oui, c'est encore assez vaste, les sujets à la croisée entre des sujets sociaux et écolos. Comment est-ce que vous faites le choix, justement, de chacun des sujets ?
Oui, c'est vrai que c'est assez vaste. Effectivement, on peut parler de tout de cette façon-là. Enfin, en tout cas, de tous les domaines de la vie. Mmh. Mais ce qu'on va chercher, c'est quand même des histoires qui sont révélatrices des points de friction de ces enjeux. Ça ne sera pas le cas à chaque fois, mais quand même, globalement, l'idée de ce format, c'est aussi de documenter un peu les impacts sociaux des transition de transition écolo qui sont certainement nécessaires, qui ont aussi un impact social, alors au sens large. Par exemple, quand on a fait un numéro sur la centrale à charbon de Cordemay, enfin l'une des deux dernières centrales à charbon de France qui ne tourne quasiment plus d'ailleurs au charbon, l'idée, est parce qu'elle cherche sa transition justement, l'idée était de documenter la lutte des ouvriers localement pour trouver un projet de conversion aussi pour maintenir les emplois sur place, sur leur bassin de vie. Donc en fait, c'est ça aussi qu'on veut documenter. Mais bientôt, on fera aussi un numéro, par exemple, sur le retour du loup en Pays de la Loire, qui est assez récent. Enfin, en tout cas, les observations et l'officialisation de sa présence est récente. Et là, ça va être plutôt de documenter ce que ça fait aux hommes d'un territoire et aux femmes de savoir que le loup est de retour, avec évidemment des enjeux divers et variés autour aussi de l'élevage, mais pas que, aussi ce que ça fait à tout le monde, en fait.
Oui, en fait, c'est des vraies longues enquêtes, donc de... 30 000 signes à peu près, c'est ça, pour chacun des numéros, avec un peu de photos aussi.
Oui, l'idée aussi, c'est de faire une place à la photographie avec un photographe, pas forcément différent à chaque fois, mais quand même, on tourne, qui vient faire quatre photos, une série de quatre photos pour illustrer le sujet. Voilà, en lien avec le ou la journaliste qui écrit le numéro. Et voilà, en binôme en quelque sorte, pour faire une espèce de série de quatre clichés qui vient illustrer ce texte.
Ouais, et pour produire donc ces enquêtes documentaires proches de l'humain, hein, on comprend avec la force des témoignages et la présence des témoignages dans le document. Est-ce que justement ce sujet sur le retour du loup dans la région, c'est le prochain numéro qui va apparaître ?
Non, alors il n'est pas pour tout de suite, il est programmé en 2026, mais ce sera, on ne sait pas encore exactement, le dernier ou l'avant-dernier de l'année. Le prochain numéro, il va s'intéresser au rapport des habitants et des habitantes des quartiers prioritaires, des quartiers populaires, à la question écologique et au combat écologiste. Mmh.
Et alors, quel est c'est la question un peu récurrente chez les médias indépendants, quel est le modèle économique des autres possibles ? Comment est-ce que vous subsistez ?
Alors, difficilement, comme toute la presse, enfin comme une grande partie de la presse indépendante, locale en particulier. Donc, mais on subsiste quand même parce qu'en fait, on s'est diversifié. Alors, on n'a pas mis tous les moyens sur le magazine parce que voilà, il en a pas beaucoup. Mais on fait aussi beaucoup d'ateliers d'éducation aux médias dans les collèges, les lycées. On a aussi ce qu'on appelle un studio éditorial qui travaille de façon un petit peu à la production de contenus éditoriaux, par exemple à la production d'expositions pédagogiques sur les sujets sur lesquels on s'est spécialisé au fil des années, donc les en, en globalement les initiatives et les innovations sociales et environnementales. Et qui va aussi, par exemple, mettre en forme de l'information pour la recherche, pour des collectivités ou encore pour des structures de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire.
Oui. Alors, tu l'as dit, la presse indépendante, pour sa grande partie, a parfois du mal à s'en sortir, en tout cas s'en sort tant bien que mal. Comment est-ce qu'on peut soutenir alors les autres possibles ? Est-ce qu'il y a des liens sur lesquels on peut cliquer, par exemple, pour faire des dons ? Ou est-ce qu'il y a d'autres façons de vous soutenir ?
La principale façon, c'est l'abonnement. Donc, c'est cliquer sur le lien « s'abonner » sur notre site internet. Ça, c'est le meilleur moyen de soutenir le magazine, puisque le magazine est parfaitement indépendant au sens où il a choisi sa dépendance, celle du lectorat. Et donc, il ne vit que de ses ventes et d'une aide à la presse de proximité par le biais de la DRAC, Pays de la Loire. Mais voilà, le moyen essentiel de nous soutenir, c'est de s'abonner et d'en profiter.
Oui, parce qu'on le rappelle, donc l'abonnement qui consiste à recevoir ces quatre numéros par an, c'est ça si je ne me trompe pas ?
Oui, on a un trimestriel, 4 numéros par an qu'on reçoit chez soi. Et l'abonnement pour un an est à 20 euros.
Pour la modique somme de 20 euros, voilà. Est-ce qu'il y a des prochaines actus, Marie, pour les autres possibles en 2026 ?
Alors, pour les autres possibles en 2026, alors globalement pour le projet, oui, hein, mais alors ça va être un petit peu long peut-être de vous. Non, mais il y a la sortie du prochain numéro qui sera en mars maintenant.
Oui.
Et puis peut-être on peut citer un projet d'éducation aux médias aussi qu'on mène un petit peu à la croisée, disons, de la rédaction et des ateliers d'éducation aux médias. On aimerait bien faire un projet autour de la santé mentale des jeunes. Et en particulier dans les quartiers prioritaires.
Eh bien, c'est super, c'est prometteur. Et merci Marie pour cette présentation du média indépendant Les Autres Possibles. Donc on était aujourd'hui dans les Pays de la Loire. Rendez-vous en janvier pour une prochaine destination. Mais en attendant, que vous soyez donc dans les Pays de la Loire ou non, n'hésitez pas à soutenir Les Autres Possibles. C'est la fin de cet épisode de Quatrième Murmure. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci évidemment à Anthony Laurent et à Nicolas Selnick d'être venus présenter vos travaux, notamment avec le média Science Critique qu'on peut retrouver sur le site science-critique.fr au pluriel, et puis aussi en librairie pour les ouvrages qui sont parus ces dernières années et puis pour les prochains à venir. Merci à PA, à la technique. Merci à Cléo, Sacha et Luna qui étiez avec nous en studio. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve en janvier pour un cinquième épisode de Quatrième Murmure. À bientôt, prenez soin de vous et de vos proches, et bonne fête !